Radio Prague, les informations. Bonjour, le maire de Prague quitte le parti Top 09. La production de l'industrie automobile a augmenté de 12% au cours des trois premiers trimestres. Et puis enfin, musique. Le français Emmanuel Vihom sera le nouveau directeur musical du Prague Philharmonia. Comme annoncé en titre, le maire de Prague, Tomáš Hudeček, et le président du parti Top 09 à Prague, Jiří Vávra, ne sont plus membres de Top 09, actuelle principale formation de droite du pays et de l'opposition à la coalition gouvernementale de centre-gauche. En conflit, les deux hommes ont indiqué ne pas vouloir endommager l'image du parti. Top 09 a réalisé le deuxième score à Prague lors des élections municipales qui se sont tenues vendredi et samedi dernier. Élection remportée de justesse par le mouvement ANO. Les leaders de Top 09 ont donc nommé une nouvelle équipe pour mener les négociations post-électorales. Les professionnels de la santé bénéficieront d'une augmentation de salaire à compter de janvier 2015, soit deux mois après les autres employés de la fonction publique, dont la fiche de paie sera revalorisée dès le mois de novembre. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Bohuslav Sobotka mardi soir dans un entretien à la télévision tchèque. Ce décalage s'explique selon lui par le fait que le secteur de la santé n'est pas directement financé par le budget de l'État. Les fonctionnaires bénéficieront d'une hausse de 3,5% de leur salaire, voire même de 5% pour certains, tels les policiers et les pompiers, grâce à une seconde réévaluation en janvier. Dans le secteur de la santé, l'augmentation sera directement de 5% au début de l'année prochaine, représentant une somme moyenne de 650 couronnes supplémentaires par mois, soit environ 24 euros. Économie, l'industrie automobile se porte bien en République tchèque. Depuis le début de l'année, un peu plus de 936 000 véhicules particuliers sont en effet sortis des usines de constructeurs installées dans le pays au cours des trois premiers trimestres. Il s'agit d'une augmentation de 12,2% par rapport à la même période en 2013. Škoda a produit plus de 60% de ce total, devant Hyundai près de 25% et le consortium Toyota Peugeot Citroën environ 15%. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par l'Association de l'industrie automobile qui s'attend à une production supérieure à celle de 2011, année record en raison de la reprise économique. Pour 2014, jusqu'à 1 200 000 voitures pourraient ainsi être fabriquées. Cette augmentation de la production a permis l'embauche déjà de plus de 3 000 employés au cours du premier semestre, soit une augmentation des effectifs de près de 3%. On passe à la culture. Le chef d'orchestre français Emmanuel Vihom dirigera le Prague Philharmonia PKF à compter de la saison prochaine. L'information a été communiquée ce mercredi par le directeur de Prague Philharmonia et fait suite à la signature du contrat entre les deux parties à New York dimanche. Réputé dans le monde entier, ancien directeur musical du Spoleto Festival USA à Charleston de 2000 à 2010 et de l'Orchestre National Slovène de 2008 à 2013, Emmanuel Vihom est actuellement directeur musical de l'Orchestre Philharmonique Slovaque à Bratislava et de l'Opéra de Dallas. Et puis, la production de pain classique à base de seigle et de froment en République tchèque a diminué de 6% en 2013 et s'est élevée à 294 000 tonnes. Les chiffres ont été annoncés par la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers alors que se tient ce jeudi la journée mondiale du pain. Selon la Fédération, les raisons principales à cette diminution sont l'évolution du mode de vie des Tchèques et de leurs habitudes alimentaires, la volonté de réaliser des économies sur le pain ou encore la préférence pour d'autres produits boulangerie. Entre 2012 et 2013, la consommation moyenne par personne est passée d'un peu moins de 43 kg à 40 kg selon Eurostat, à 23 couronnes le kilo, soit 83 centimes d'euros. Le prix du pain en République tchèque est le 8e meilleur marché parmi les 28. On termine comme toujours avec un mot de météo. Avis aux amateurs de promenade en forêt, bottes en caoutchouc aux pieds. C'est une belle journée d'automne avec un temps très couvert et pluvieux dans la moitié ouest, c'est-à-dire en Bohême, et un peu plus dégagé dans l'est, c'est-à-dire en Moravie, qui attend les Tchèques ce jeudi, jour de la fête des Havel. Il s'agit attention du prénom et des Galina. Quant aux températures, elles varient entre 14 et 18 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme et plus précisément en la compagnie de Denisa Tomanova. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Prague pour votre magazine d'actualité tchèque en français. Je tiens tout d'abord à remercier Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Au programme aujourd'hui, nous allons tout d'abord revenir sur la 18e édition du Forum 2000. Des cycles de conférences qui se sont tenus à Prague jusqu'à mardi avaient pour intitulé cette année « La démocratie et ses malaises », un quart de siècle depuis le rideau de fer et Tiananmen. Ce sera dans quelques instants. Et par la suite, on parlera architecture et plus précisément d'architectes prometteurs français dans le cadre d'un événement organisé en collaboration avec la faculté d'architecture de l'université technique, la CVUT, et l'Institut français de Prague. Et en deuxième partie de notre programme, nous retrouverons, comme tous les 15 jours, les chapitres de l'histoire, une rubrique qui sera consacrée à la longue histoire de la monnaie tchèque. Vous êtes bien sûr Radio Prague, excellente écoute à toutes et à tous. La 18e édition de la conférence Forum 2000, intitulée « La démocratie et ses malaises », s'est achevée ce mardi à Prague. Outre les tables rondes focalisées sur les zones de conflit, comme l'Ukraine ou le Kurdistan irakien, les organisateurs ont également proposé un débat portant sur la redéfinition de la politique tchèque d'aide au développement. À l'origine de cette nouvelle conception, le ministre adjoint des Affaires étrangères, Petr Drulák, était invité au Forum 2000 pour en expliquer la logique. À cette occasion, plusieurs ONG ont fait entendre leurs craintes par rapport aux intentions du gouvernement. Plus de détails avec Lucie Drexelova.
Au pouvoir depuis 10 mois, le chef de la diplomatie, le social-démocrate Lubomír Zaorálek et ses proches collaborateurs ont lancé un débat sur la nature du soutien tchèque aux droits de l'homme à l'étranger. Petr Drulák, ministre adjoint des Affaires étrangères, explique la démarche.
Nous voulons élargir le concept des droits de l'homme. Parce que auparavant, nous nous avons concentré sur des questions de droits politiques qui sont importantes sans doute et nous voulons les tenir. Mais nous voulons aussi inclure les droits sociaux, les droits d'environnement et aussi des droits culturels et les droits de genre. Donc, si nous parlons de droits humains, nous voulons les percevoir comme un complexe qui a plusieurs dimensions.
En pratique, cela se traduirait par une redéfinition des priorités, notamment en donnant plus de place au soutien des droits économiques qui passe par l'adoption de nouvelles méthodes. Petr Drulák nous en dit plus.
À propos de la méthode, nous voulons essayer d'approfondir les dialogues, en particulier avec les pays qui ont un autre système politique que nous. Nous voulons trouver des thèmes qui sont acceptables pour tout le monde, parce que notre tâche suprême est faire promouvoir la condition humaine.
Source de controverse parmi certaines ONG, notamment auprès du géant de ce secteur, l'homme en détresse, la nouvelle orientation de la politique de soutien aux droits de l'homme devrait se faire par un rapprochement de deux agendas jusqu'alors séparés, celui du soutien aux droits de l'homme et celui de la coopération au développement. Présidente de l'Association pour le soutien à la démocratie et aux droits de l'homme, Sabina Maltsova représente plusieurs ONG actives dans ce domaine. Elle précise que chacun de ces deux volets à sa propre logique et qu'ils devraient donc rester séparés.
Le soutien à la transformation politique ou à la démocratisation, ce sont des thèmes politiques plus sensibles qui requièrent un autre traitement que la coopération au développement ou l'aide humanitaire. De surcroît, ce soutien pose des exigences différentes à l'égard de nos activités.
Pour le ministère, ce revirement permet l'abandon des paroles en l'air au profit d'une action qui se veut plus efficace pour améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Néanmoins, certains craignent que la République tchèque renonce à l'aide financière ou matérielle directe, une aide qu'elle apporte déjà depuis 2 décennies aux dissidents politiques, notamment à Cuba ou en Birmanie. En rapprochant l'agenda du soutien aux droits de l'homme à celui de la coopération au développement, le premier risque de se voir broyé dans le second, car les deux peuvent parfois aller dans le sens inverse, comme par exemple dans le cas d'une aide matérielle apportée aux familles des prisonniers politiques, tout en aidant le même État à réaliser des projets d'infrastructure dans le cadre de la coopération au développement. Au-delà des controverses relatives à la redéfinition des politiques de soutien aux droits de l'homme et d'aide au développement, un autre défi demeure, qui est celui d'articuler ces deux volets avec la diplomatie économique en expansion. Interrogé sur un risque d'incohérence entre ces aides et une politique commerciale, Petr Drulák conclut.
Je pense que chaque de ces politiques a une logique de comportement qui est propre à elle. Donc, c'est un défi pour chaque administration de coordonner tous les deux ou trois politiques de manière cohérente. Pour nous, c'est une tâche à accomplir.
Quelles sont les tendances actuelles de l'architecture contemporaine en France et en République tchèque? L'architecture contemporaine a-t-elle sa place dans les lieux historiques? Quel est son rôle? Les réponses à toutes ces questions ont été trouvées dans le cadre du cycle de conférences intitulé « Future France », dédié à des architectes français prometteurs et organisé en collaboration avec la faculté d'architecture de l'Université technique et l'Institut français de Prague. Plus de détails avec Anton Koucherov.
Après le cycle Métamorphose urbaine consacré aux grands noms de l'architecture et de l'urbanisme français, l'Institut français de Prague lance un nouveau cycle France Future qui se tient du 9 octobre au 3 novembre. 5 rencontres avec des architectes français contemporains sont prévues à cette occasion. L'année dernière, un premier cycle sur l'architecture et l'urbanisme avait déjà été lancé à l'Institut français en partenariat avec l'association des architectes tchèques KRUH. Le cercle. Ces premiers cycles, intitulés Les métamorphoses urbaines, avaient été consacrés à l'urbanisme et l'architecture dans la généralité. Tout au long de l'année 2013, des grands noms de l'architecture française se sont donné rendez-vous autour de 6 conférences-débats. Parmi les personnes invitées figurent Christian Devilliers, Richard Bigel, Gilles Perrodin, Édouard François. L'attaché de coopération scientifique et l'universitaire de l'Institut français de Prague, Richard McLuffy, a partagé le moment clé de l'organisation avec Radio Prague.
Et on s'est rendu compte que c'est une thématique ou un thème vraiment d'intérêt commun entre la France et la République tchèque. Et c'est un thème qui intéresse beaucoup les jeunes, beaucoup de jeunes architectes. Et quand il s'agit du design, de l'architecture ou de nouvelles technologies, il y a un grand intérêt. Et on s'est dit, pourquoi ne pas le continuer? Parce qu'on l'avait fait avec KRUH. KRUH maintenant passe, bien évidemment, avec un autre partenaire parce qu'il change de pays tous les ans. Et c'est là où je suis allé voir, les responsables de la faculté d'architecture pour savoir ce qu'on peut faire ensemble.
Cette année, la programmation prévoit parmi ses invités Aldric Beckmann, Olivier Meheux, Julien Rousseau, Thomas Kuldefi et Adrien Dumont. Radio Prague a eu la chance de s'entretenir avec le premier invité, Aldric Beckmann. Son agence d'architecture Beckmann NTP, fondée en 2002, est composée du tandem Aldric Beckmann et Françoise NTP. Il s'agit d'une équipe qui a travaillé non seulement en France, mais aussi à l'étranger et qui fait partie des duos les plus prometteurs de la jeune architecture française. L'agence a notamment collaboré avec les deux célèbres architectes français, Christian de Potzenpark et Jean Nouvel, ainsi qu'avec le groupe industriel français Bouygues. Suite aux vifs débats relatifs aux constructions contemporaines, telles que la maison dansante, l'Ange d'Or, une construction de l'architecte français Jean Nouvel, le nouveau centre commercial Quadrio, dont la construction est en train de s'achever, ou encore un bon nombre d'autres bâtiments situés au cœur historique de Prague, nous avons demandé à Aldric Beckmann quelle était son opinion.
Je trouve ça raisonnable et je trouve ça même indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des besoins de... En logement, il y a des besoins en équipement culturel et on doit les mettre au cœur de la cité, on doit les mettre au cœur de la vie des gens et ne pas étendre les villes sur le domaine rural qui est un danger écologique. Et je pense que la ville peut et doit se densifier en travaillant et en sur elle-même.
L'architecte a également comparé Prague à d'autres villes européennes, et notamment à la ville de Paris, où se concrétisent la plupart de ses travaux. Aldric Beckmann.
Si on regarde un petit peu Prague c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, Prague s'est pas développé par accumulation, mais c'est développé par juxtaposition, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un quartier Renaissance, un quartier plus baroque, un quartier, etc., etc., et qui sont les uns à côté des autres. Donc il y a déjà, dans l'essence même de la ville, il y a moins cette fusion qui a pu s'opérer à travers les siècles. C'est une ville qui est moins dense que Paris et qui profite d'avoir énormément de jardins, de verdure partout, et ça la rend différente et très agréable.
Le cycle de conférences se poursuivra le jeudi 16 octobre à l'Université technique de Prague avec l'architecte Olivier Meheu. Trouvez les dates des conférences consacrées à l'architecture et l'urbanisme contemporain sur le site de l'Institut français de Prague, www.ifp.cz, dans la rubrique France Future.
Une grande exposition consacrée à la monnaie et à son histoire s'est achevée l'été dernier au Musée national à Prague. En compagnie du coordinateur de ce projet, intitulé Peníze, argent, Vojtěch Poláček, Radio Prague vous a déjà proposé de revenir sur l'évolution des échanges en République tchèque et dans le monde à travers le prisme de cet instrument de paiement. Pour les retardataires n'ayant malheureusement pas eu le temps de satisfaire leur curiosité, voici un petit cours de rattrapage pour envisager l'histoire de certains des usages sociaux de la monnaie. La rubrique chapitre de l'histoire est signée Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire. Depuis la monnaie de pierre, de poissons séchés ou de graines de café jusqu'aux cartes de crédit, les instruments d'échange ont largement évolué et nous avions eu l'occasion de le constater lors d'une précédente émission. Mais la monnaie, en plus de son aspect pratique, recouvre un aspect largement symbolique. Elle est le moyen pour un État, pour un pouvoir, d'affirmer son autorité sur un territoire donné, d'écrire et d'inscrire une histoire et des valeurs, de montrer la richesse et la prospérité. Ceci, la collection rassemblée à l'occasion de l'exposition Peníze l'illustre bien. Il y a par exemple le denier de Boleslav, le premier témoignage de pièces de monnaie en terre tchèque, apparu au IXe siècle et qui dit quelque chose du processus de constitution d'un État en cette contrée. Plus de 1000 ans plus tard, l'édition de certaines pièces participe encore de la légitimation d'un pouvoir, en l'occurrence, après 1918, celui du nouvel État tchécoslovaque. Vojtěch Poláček développe.
Il y a là une pièce appelée Ducat de Saint-Venceslas, éditée directement par la Première République tchécoslovaque en 1923, et un tirage limité à 5000 unités. La pièce numérotée du chiffre 1 a été donnée à notre premier président Tomáš Garrigue Masaryk, lequel en a ensuite fait don au Musée national.
500 kusů, z nichž první dostal náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk s číslem 1, ten pak daroval Národnímu muzeu.
Il s'agit donc d'une pièce d'une très grande valeur. En 2006, un exemplaire d'un ducat de Saint-Venceslas, édité à 8 unités en 1937, a par exemple été vendu à 1,2 million de couronnes, plus de 40 000 euros, une somme record à l'époque pour une pièce de monnaie tchécoslovaque, car la monnaie est également un objet de collection. La numismatique est très ancienne, mais Vojtěch Poláček précise que cette étude des pièces et des médailles n'a été réellement popularisée qu'à la fin du 19e siècle. Cette passion pour les pièces de monnaie a également aujourd'hui quelques effets pervers pour le monde archéologique.
Malheureusement, des personnes armées d'un détecteur de métaux se spécialisent dans la recherche de ces pièces. Et en plus des archéologues, par exemple du Musée national, des détecteurs privés découvrent des pièces anciennes. Le problème, c'est qu'ensuite, ils les gardent quand bien même ils n'en ont pas le droit. Parce qu'en République tchèque, tout ce que vous trouvez dans le sol appartient à l'État, qu'il s'agisse de trouvailles archéologiques ou de matières premières. Si vous découvrez un filon d'or sous votre maison, il ne vous appartient pas.
Voilà qui peut apparaître dommage, surtout si l'on met la main dans son jardin sur une pièce telle que les 100 ducats d'or de Ferdinand III, dont le Musée national présentait également un des deux exemplaires qu'il possède.
Ten je cený nejen teda objemem svým toho zlata, které v něm je.
Sa valeur ne repose pas seulement sur le fait qu'elle est composée de 350 grammes d'or, mais surtout parce qu'il n'en existe que 6 au monde. Cette pièce a été éditée par Ferdinand III à l'occasion de son couronnement, pensaient tout d'abord les spécialistes. Mais lors de l'édition de la pièce, le couronnement était déjà vieux de 2 ans, et une théorie populaire dit plutôt que c'était pour célébrer le rétablissement de l'empereur d'une mauvaise maladie.
Oslavu toho, že se vyléčil z nějaké zlé choroby.
Ces pièces étaient réunies au sein d'un même espace, concentrant certaines des possessions les plus précieuses du musée national et illustrant la fonction ostentatoire de la monnaie. Des bijoux, des diamants, de la vaisselle de luxe et des œufs de Fabergé à l'authenticité discutable. Pour celui qui a de l'argent, il faut visiblement faire étalage de luxe et de distinctions d'ordre tout aussi matériel que culturel. Les industries du cristal, du luxe, ont pu participer à la richesse du royaume de Bohême, par exemple au XIVe siècle grâce aux mines d'argent de Kutná Hora, avec la ruée de milliers de personnes venues faire fortune ou tout du moins essayer d'améliorer leur sort. On a aussi extrait de l'or du sol tchèque et des industriels aimeraient pouvoir poursuivre cette activité encore aujourd'hui, notamment dans le nord du massif de la Šumava, mais pour l'heure, ils se heurtent aux populations situées sur les terres qui les intéressent et au pouvoir public. Cette exploitation des minerais précieux, l'exposition pénisée l'évoque à sa manière.
Ici, nous avons une pierre d'apparence banale et plutôt pour illustrer le type de matériau dont l'or est extrait. La plupart du temps, ce n'est pas cette belle poudre ou ces belles pépites, mais des roches qu'il faut travailler chimiquement pour espérer en récupérer un peu d'or. Selon une certaine théorie économique, il est rentable d'extraire de l'or si on obtient un demi-gramme d'or sur une tonne de roche.
Z tuny horniny vám stačí, když vytěžíte půl gramu zlata.
La théorie économique était précisément l'objet de la suite de la visite avec de nombreux penseurs du capitalisme et quelques-uns de ses critiques. Quelques entreprises ou produits de consommation emblématiques de ce système économique viennent agrémenter la démonstration.
Pak ukazujeme symbol podnikání v Čechách největší, což je firma Baťa.
Nous montrons ensuite un symbole de l'entreprise en République tchèque, en l'occurrence avec Batia, société de fabrication de chaussures fondée sous la Première République, avec une chaîne de travail très organisée. On parlait d'un État dans l'État. Tomáš Batia s'occupait beaucoup de ses ouvriers avec la construction d'écoles et la mise à disposition de logements. Il s'est ensuite développé à l'étranger pour plusieurs raisons, parce que la guerre puis les communistes sont arrivés.
I z důvodu teda toho, že byla válka a pak jsem přišel komunisté.
Wojciech Polaček poursuit en remarquant que cette réussite du capitalisme paternaliste s'est accompagnée d'une destruction du réseau des artisans du secteur et en particulier des cordonniers. Le chômage, la persistance de la misère, les inégalités sociales et économiques que cette course à l'accumulation d'argent sous-tend sont des phénomènes abordés relativement marginalement par l'exposition. Ainsi, il est plus signalé le rôle des sociétés caritatives et par exemple de l'une des plus vieilles d'entre elles.
Ale nechtěli jsme to zase tak jako marxisticky úplně rozdělit, takže na té pravé straně jsou třeba i příklady.
Et nous ne voulions pas diviser de façon marxiste l'espace d'exposition, donc nous avons également présenté des formes de solidarité que sont les différentes fondations ou œuvres caritatives. Par exemple, avec la famille des Fugger, qui sont parmi les premiers banquiers en Europe centrale, en Allemagne. Dès le XVIe siècle, ils proposaient le système de la Fuggerei dans la ville d'Augsbourg, l'un des plus anciens exemples de logement social qui fonctionne encore de nos jours dans les mêmes bâtiments. Il manque à l'époque.
Oui, colonie sociale bydlení a doteď to tam vlastně funguje v těch původních domech.
L'exposition pénisée ambitionnait ainsi de montrer que l'argent et la monnaie se retrouvent au cœur de nos sociétés contemporaines pour le meilleur et pour le pire.
Notre émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et pour plus d'informations sur l'actualité tchèque en français, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet au www.radio.cz/fr. C'est Denisa Tomanova qui a eu le plaisir de vous présenter cette émission. Merci de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt sur Radio Prague.